Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.
Bonjour à tous. Exceptionnellement, vous le reconnaîtrez à la voix, ce n'est pas Marc Tessier-Dorfeuille derrière le micro, Antoine Armstrong, directeur adjoint de Compublic. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Benoît Dijon, maire de Montargis, qui était élu en 2018 et puis réélu en 2020 suite aux dernières élections municipales. Monsieur le maire, bonjour. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
La ville de Montargis a inauguré en mars 2021 sa première opération de réhabilitation de son centre. Comment est-ce que se traduit concrètement le plan Action Cœur de Ville dans le cadre de l'aménagement de votre territoire ?
Alors là, c'était effectivement un premier immeuble Normandie qui a été traité par des particuliers, par une petite SCI, et qui a travaillé sur 6 appartements permettant aux futurs locataires d'avoir un bilan énergétique qui était pratiquement la moitié de ce que payaient les précédents. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 900 euros, par exemple, de chauffage annuel, il tombait à 350-400 euros à peu près à l'année, ce qui était quand même providentiel pour les locataires. D'autant plus que l'immeuble était complètement, effectivement, isolé et que les performances des matériels installés étaient remarquables.
Et donc, ça veut dire que ça a été la première opération qui a été mise en œuvre dans le cadre du plan Action Cœur de Ville. J'imagine que vous avez aussi d'autres programmes qui vont se mettre en œuvre au fil de l'eau et dans les mois à venir.
Bien sûr. Là, c'est un investisseur privé qui a pris une initiative privée, qui a d'ailleurs acheté d'autres immeubles en centre-ville, qui va poursuivre. Mais nous avons, nous, un plan Action Cœur de Ville qui est très ambitieux, puisqu'il s'agit de racheter dans une rue commerçante qui est un petit peu en perdition, 70 immeubles dans lesquels nous allons rénover et augmenter le nombre de logements dans les étages. Et nous allons aussi augmenter les surfaces commerciales, c'est-à-dire qu'on va regrouper plusieurs immeubles ensemble pour créer des surfaces commerciales de 200, 300, 400 mètres carrés pour des activités nouvelles qui viendront au centre-ville, puisque on sait que les magasins, les grandes surfaces recherchent pour certaines enseignes des surfaces de 400 mètres carrés adaptées notamment pour l'accueil du mobilier, pour l'accueil des personnes en ville. On a énormément de pistes actuellement qui sont en train d'être travaillées. Actuellement, nous sommes dans la phase acquisition. On commence les relevés bâtimentaires au mois de septembre. Il y a un budget d'environ 17 millions d'euros qui va être consacré aux acquisitions et relevés bâtimentaires. C'est pour vous dire l'importance du budget pour une petite ville de 15 000 habitants comme la nôtre. Mais les ambitions sont grandes parce qu'il faut effectivement sauver le patrimoine et le redynamiser.
Une vraie politique de mise en œuvre de commerce de proximité pour vos populations. J'imagine que vous avez dû vous réjouir des annonces de Jean Castex la semaine dernière qui a annoncé la prolongation du dispositif Cœur de Ville. On en saura un peu plus dans les mois qui viennent. Il y a de nombreux projets qui vont être mis en place dans votre ville dans le cadre de l'opération de revitalisation des territoires. Quelles sont les particularités des projets que vous portez ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, cette opération centre-ville, elle est très importante, mais on vient d'y accrocher une ORT. Donc, on a 3 autres quartiers de la ville qui sont concernés. Un avec un centre commercial qui a besoin d'être modernisé. Donc, on va voir si, avec la Caisse des dépôts, si on passe par une acquisition ou une rénovation. On va voir ça. Puis, vers la gare, on a encore de très nombreux logements et habitats qui sont un peu anciens, sur lesquels il faut qu'on soit actif. Et là aussi, on va essayer d'intervenir avec nos moyens. Mais on a beaucoup de chance avec l'établissement public foncier du Loiret, le PFLI, qui nous aide effectivement, qui se substitue à nous pour ces acquisitions, qui fait le portage et qui nous permet d'étudier avec des promoteurs l'avenir de notre centre-ville. Concernant justement ce qui est tout à fait intéressant, et on l'avait échangé avec M. Tessier-Dorfeuille, il existe maintenant des promoteurs de centres commerciaux qui viennent se redéployer en centre-ville. Et on a un certain nombre qui sont intéressés, et ça c'est tout à fait nouveau, par l'acquisition de l'ensemble du programme des 70 immeubles, c'est-à-dire qu'ils achèteraient l'ensemble pour réaliser le programme, revendant ensuite les maisons à des propriétaires, et puis gardant effectivement les surfaces commerciales pour les relouer à leur réseau qui viendrait s'installer à nouveau au centre-ville, puisque on sait que maintenant il y a beaucoup de freins à la construction de centres commerciaux ou de galeries marchandes à l'extérieur. On voit ce qui s'est passé à Paris récemment, et ça se passe aussi dans toute la France, puisqu'il y a un coup de frein, et puis les ORT aussi permettent de faire une pause dans le développement des grandes surfaces à l'extérieur des villes. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt de ces investisseurs pour un retour en centre-ville, qui n'est pas dénué d'intérêt financier, bien entendu, mais ça accompagne effectivement nos projets, et nous en sommes très, très contents pour le moment.
C'est vrai que la difficulté, c'est d'une part les grandes surfaces qui sont à la périphérie des villes et la volonté de renforcer le commerce de proximité pour pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres. En termes de calendrier, les opérations que vous évoquiez devraient commencer prochainement et s'étaler dans les années à venir ?
Alors là, nous avons déjà acquis à peu près 55% des immeubles concernés et nous passons dans une deuxième phase qui va être plus coercitive, où nous allons procéder à des expropriations, car le périmètre a été bien fixé. Donc là, nous sommes en discussion avec les services de l'État pour basculer sur des contraintes un petit peu plus fortes maintenant au niveau de l'acquisition des immeubles, des propriétaires qui ne veulent pas céder pour des raisons qui sont leur sont propres, mais nous devons effectivement passer pour que l'ensemble réussisse.
Sur le sujet des logements, comme de nombreuses communes, la ville de Montargis est victime des marchands de sommeil. Quelles actions est-ce que vous avez pu mettre en place dans votre collectivité pour lutter contre ce fléau ?
Alors, nous avons trois tours privées sur ce qu'on appelle le plateau Kennedy, qui est à l'orée de la ville de Montargis et de Chalette-sur-Loing, qui est notre commune voisine. Et nous avons effectivement ces trois tours dont l'habitat privé s'est dégradé depuis des années. Et des marchands de sommeil, comme vous les citez, ont acheté effectivement les chambres au niveau 0 ou moins 1, pour les louer dans des conditions tout à fait scandaleuses à des gens qui ne trouvent pas de logement. Donc là, nous avons lancé un plan de sauvegarde pour ces immeubles-là. Donc la Caisse des dépôts nous épaule aussi dans le cas du rachat d'appartements. Il faut savoir que ces chambres, des chambres se vendent à peu près 5000 euros l'unité et sont très rentables puisque en 14-15 mois, ils ont quasiment payé leur investissement, puisque le loyer est de 350 euros, payé souvent par la CAF directement. Alors les propriétaires n'ont aucun souci. Vous savez, c'est le problème aussi dans toute la ville où on a des habitats anciens, insalubres, en mauvais état, qui sont loués à des gens aux revenus très modestes, donc c'est la CAF qui paye. Et malheureusement, on doit faire des actions là-dessus aussi. Donc pour les trois tours en question, il y a un plan de sauvegarde puisqu'il y a eu un dépôt de bilan d'une des copropriétés. Mais par contre, au niveau du centre-ville, avec l'ARS, avec la police municipale, les services de logement de la ville, on est très interventionniste sur des états globaux qu'on connaît et on intervient pour mettre hors d'état de nuire ces propriétaires délicats, c'est-à-dire qu'on va déclarer leur logement insalubre et on va demander de fermer leurs 5, 6, 8, 10 logements qui sont loués dans des conditions tout à fait anormales et pour reloger les gens après dans le parc social de la ville en attendant que les travaux de réparation, démolition ou de revente à des gens plus honnêtes fassent du travail pour rétablir ces appartements d'une manière plus digne.
Et on parlait du coup de logement et le besoin de loger les populations. Est-ce qu'avec le confinement et l'exode de plusieurs populations qui ont quitté les grandes villes pour retrouver un cadre de vie plus agréable dans des plus petites collectivités, est-ce que vous, à Montargis, vous avez justement eu un flux de population qui est venu ou vous n'avez pas encore pu l'observer ?
Alors, on a sur des grosses maisons de ville, des Parisiens notamment, ou des gens de la banlieue parisienne, qui viennent s'installer ici, puisque nous avons 28 liaisons train par jour, alors soit de la gare de Lyon, soit de Bercy. Il y a des trains qui mettent 1h40, il y en a un toutes les heures, et puis il y a des trains directs qui mettent 1 heure de Bercy, il y en a 7 par jour à peu près. Et là, c'est une opportunité effectivement pour des gens de la région parisienne de venir s'installer ici à Montargis, surtout que la ville est fibrée, on a une très bonne circulation de l'informatique. Alors ceci étant, dans les populations redevables du logement social, nous avons effectivement beaucoup de logements sociaux puisqu'on arrive à 40% actuellement, 40,3% contre 44% il y a une quinzaine d'années. Donc on a réussi à rééquilibrer un peu mieux les choses, mais on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines. On aimerait descendre à 35% à peu près, ce qui serait un bon équilibre, mais en rénovant beaucoup le parc privé qui souvent est en mauvais état alors que le parc social est en très bon état. Nous avons une grosse opération en rue, et nous avons aussi des sociétés d'HLM qui sont très responsables et qui font tout pour améliorer les performances énergétiques de leurs bâtiments. Et là, habiter dans le social à Montargis, c'est un plus, hein, et nous espérons que avec les rénovations que nous avons en centre-ville et les incitations gouvernementales, Normandie notamment, on pourra avancer rapidement là-dessus sur une remise en état du parc privé qui a besoin d'être soutenu.
On verra bientôt des publicités dans le métro parisien pour venir à Montargis avec des accès directs. J'ai noté les nombreuses liaisons en train qui existent. Vous avez mis en place un schéma directeur des énergies, notamment thermiques, dans votre commune. Quels sont vos objectifs justement pour renforcer les services ?
Alors nous avons actuellement un système de chauffage urbain qui est en centre-ville à côté des logements sociaux ou des logements collectifs, du moins, parce qu'il n'y a pas de crise sociale. Et on chauffe à peu près 4000 personnes sont chauffées par ce chauffage qui est en biomasse depuis une dizaine d'années. Nous le raccordons actuellement avec l'incinérateur des ordures ménagères qui se trouve à 5 km de là. Donc un tuyau est en train d'être tiré et il va être connecté au mois de septembre. Il va permettre encore de baisser de 9% le prix de l'énergie. Alors quand on additionne les performances énergétiques des bâtiments et qu'on rajoute les économies d'énergie qu'on fait au niveau de la vente d'énergie, les gens ont vu diviser leur note de chauffage par 2,5 depuis une quinzaine d'années. Alors nous avons récupéré récemment une caserne, la caserne Gudin, qui se trouve à la sortie sud de Montargis, et sur 5,5 hectares, qui comportait aussi une chaufferie urbaine qui était au gaz, et on va la passer en biogaz, et on va se permettre de chauffer toute la partie sud de la ville, y compris la nouvelle zone qu'on va créer de reprise des immeubles, des 70 immeubles, et on va amener un tuyau de cette chaufferie à la mairie, ça fait 3 km, mais ça c'est tout à fait rentable pour éviter d'avoir les chaudières urbaines, d'avoir les systèmes de climatisation aussi, puisque quand on fait du chaud, on sait faire du froid, donc toutes les climatisations et les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire seront connectés dans l'avenir sur ce système de chauffage urbain, qui permettra aussi à la mairie et à des tas d'immeubles qui sont sur le chemin de pouvoir bénéficier de ce chauffage urbain, et tout le développement que nous faisons aussi des nouveaux immeubles sur le centre-ville permettront de pouvoir les raccorder à ces chaufferies urbaines, économisant ainsi de très très grosses quantités de chauffage, de gaz, d'électricité, et c'est pour nous un véritable challenge. Je pense que d'ici une quinzaine d'années, la moitié de la population de Montargis, au moins, sera chauffée par un système urbain public, mais qui permettra à tout le monde d'être satisfait, car quand il n'y a plus de chaudière, quand il n'y a plus de ballon d'eau chaude, quand il n'y a plus de système de clim privé, ben on fait vraiment des économies. On fait des économies d'abord sur les immeubles, au niveau des installations, et on fait des économies aussi au niveau de la consommation. Et là, c'est tout à fait essentiel.
Merci, monsieur le maire. Merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Et puis, à très bientôt, je l'espère, dans le cadre des différents dispositifs Action Cœur de Ville, notamment.
Merci de votre accueil. Bonne journée.
À très bientôt. Au revoir.
Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.